Les podcasts du Collège de France, Histoire.
J'ai donc discuté la dernière fois des relations sur le terrain entre les étrangers et les autorités locales ou les autorités provinciales dans le cadre des entreprises de secours et de développement conduites par la CIFRC, la Commission internationale contre la famine en Chine, dans les années 1920 et 30. La CIFRC qui était, comme nous l'avons vu, la principale organisation philanthropique permanente en Chine et qui était donc à la fois chinoise et internationale, ou chinoise et étrangère, et dont les chantiers d'infrastructure constituaient une partie importante des activités, c'est-à-dire les digues, les canaux et les routes essentiellement. J'ai en particulier évoqué les problèmes de sécurité, ou plutôt d'insécurité, puisque comme nous l'avons vu, le manque de sécurité était un souci constant ou, à tout le moins, extrêmement fréquent. Le banditisme reste un phénomène endémique dans de vastes régions de Chine à cette époque. Et pour des raisons qui sont faciles à imaginer, il a vite fait de prendre des proportions alarmantes dans les zones qui souffrent de famine. À partir du moment, en effet, où l'État s'avère, pour une raison ou une autre, incapable de secourir avec un minimum d'efficacité les victimes d'un accident climatique ou autre, à partir de ce moment, de ce moment-là, les plus aventureux ou les plus désespérés sont facilement tentés de se servir tout seuls, c'est-à-dire de se transformer en hors-la-loi pour survivre. Or, si la CIFRC ou toute autre des innombrables organisations charitables dont j'ai parlé l'année dernière était susceptible de prendre en charge au moins une partie des secours, de se substituer donc aux autorités défaillantes pendant presque toute la durée de la période qui nous concerne. En revanche, le maintien de l'ordre et la protection des populations n'entraient absolument pas dans ces attributions. Les agents de la CIFRC ou des autres organismes philanthropiques sur le terrain pouvaient au maximum essayer de protéger leurs propres installations, leurs moyens de transport, leurs voitures, leurs dépôts de grains ou leurs dépôts de fonds, leurs campements. Ils pouvaient le faire en s'armant, et j'en ai donné quelques exemples. Mais cela ne pouvait pas aller très loin. Il n'y avait donc pas d'autre alternative que de requérir la protection, des forces de l'ordre. Et pour cela, on était bien obligé de solliciter les fonctionnaires locaux, puisque, en principe, ils étaient les seuls habilités à en disposer. La sécurité est donc une des raisons importantes pour lesquelles les organismes philanthropiques qui interviennent sur le terrain doivent tout faire pour établir des relations de confiance avec les autorités locales et s'assurer de leur collaboration. Nous avons vu la semaine dernière que ce n'était pas toujours facile et que, aussi bien, les moyens de répression dont disposaient les fonctionnaires locaux étaient souvent très limités, à tel point qu'eux-mêmes avaient parfois du mal à protéger leur propre ville. Quoi qu'il en soit, ces constatations faites, j'étais revenu en conclusion sur notre terrain, donc au Shaanxi, ou plus étroitement dans les environs de Xi'an et dans la zone du Weibei, pour essayer de voir la façon dont les choses s'y présentaient de ce point de vue. Et plus généralement, pour examiner les relations entre la CIFRC et l'administration nationaliste du Shaanxi, installée dans la place, je le rappelle, depuis la fin de l'année 1930. Et nous avions donc vu que, à en croire en tout cas les témoignages émanant des responsables de la CIFRC, qui ne sont pas toujours aussi aimables sur de tels sujets, ces relations avaient été placées sous le signe de la bonne entente et de la collaboration pendant toute la durée du grand chantier du canal Tsinghua, et ce jusqu'à l'inauguration officielle de l'ouvrage, donc le 20 juin 1932. On trouve bien, ça et là, mention de problèmes techniques. Je pense par exemple à une lettre où Eliassen, l'ingénieur responsable de la partie la plus importante du chantier, se plaint de la qualité insuffisante de travaux effectués sous la haute responsabilité de Li Yijie, donc le fameux Li Yijie, qui représentait le gouvernement en fait sur le chantier. Donc on trouve mention de problèmes, parfois de problèmes techniques, ou alors de problèmes financiers qui résultent de l'incapacité du gouvernement provincial à remplir ses engagements. Mais ces problèmes avaient été résolus, ou disons, ils avaient été intégrés. C'était en quelque sorte des accidents de parcours. Et du point de vue de la sécurité, il ne semble pas y avoir eu d'inquiétude particulière sur le site où s'activaient les ingénieurs de la CIFRC, les cadres aussi bien étrangers que chinois qui les assistaient, et les milliers de travailleurs recrutés dans toute la région. Alors que, en dépit de la proximité de Xi'an était à peu près à 40-50 km, ce site était relativement isolé au pied des montagnes qui bordent la vallée de la Wei, au nord. Et nous verrons tout à l'heure les problèmes que cela pouvait poser. Et alors que le voisinage restait marqué par les conséquences de la famine et des désordres politico-militaires de toutes sortes, encore tout récents, et sur lesquels je me suis longuement étendu les précédentes années. Et pourtant, rien n'indique que l'anarchie et le banditisme dont la région avait tellement souffert pendant la décennie précédente n'étaient plus désormais qu'un mauvais souvenir. Bien au contraire, on a plutôt l'impression que pendant la période des travaux, le site a été une sorte d'oasis de sécurité au milieu d'un environnement qui restait extrêmement instable. Et qu'il était d'autant plus instable que la sécheresse et la famine n'ont pas disparu du Guangzhou après l'arrivée des nationalistes, même si le pire était incontestablement derrière. Par exemple, en 1931 et en 1933, on a des retours de sécheresse assez sévères qui ne sont pas des famines générales touchant, enfin des sécheresses générales touchant toute la région, mais qui sont plus localisées, mais assez sévères malgré tout et qui suscitent à nouveau beaucoup de tensions dans la société. Mais encore une fois, le chantier du Weibei semble être resté à l'abri. Ainsi, Todd écrit-il dans un article publié peu après l'inauguration du canal que les travaux ont pu, je cite, ont pu progresser sans subir de délais sérieux, même si pendant une partie du temps, il y a eu du banditisme dans des zones pas très éloignées du chantier. Et plus intéressantes et surtout plus précises sont les indications qu'on trouve dans un reportage publié 2 jours avant l'inauguration du canal dans le grand journal de Tianjin, le Dagongbao, qu'on traduit parfois, je crois, par l'impartial. Donc dans le Dagongbao, qui était un des grands journaux de Chine et qui avait d'ailleurs un bureau qui s'était ouvert récemment à Xi'an. Donc un article paru dans le Dagongbao, dans lequel on trouve beaucoup d'informations très vivantes et surtout recueillies sur place. Ainsi, ce journaliste, dont peu importe le nom, note-t-il parmi beaucoup d'autres détails que même si le banditisme reste endémique dans la région, encore qu'on n'ait pas affaire, précise-t-il, à des bandes importantes, en d'autres termes qu'il s'agit plutôt d'actions dispersées et inorganisées, en dépit de cela, donc, les ingénieurs du canal n'ont jamais été menacés et le camion qui transportait les payes depuis Xi'an, et les payes c'était du solide, c'était du métal, depuis Xi'an n'a jamais été attaqué. C'est, dit ce journaliste, comme si les fanions et les écussons du bureau des ingénieurs, qui étaient donc arborés par les camions et par les voitures de la commission, servaient de sauf-conduit. Et il ajoute même que lorsqu'un ingénieur se faisait détrousser par des bandits sur une route, et que ses agresseurs réalisaient qui il était, il lui rendait l'argent, ce qui prouve, toujours d'après cet auteur, que ces bandits locaux, et là c'est le terme tellement important à cette époque de Toufei, donc bandits locaux, ce qui prouvait que ces bandits locaux sont en fait des paysans affamés pour qui la construction du canal est une bénédiction. Peut-être ce journaliste n'est-il cette histoire d'Eliassen lui-même qu'il semble avoir longuement interviewé. Et d'ailleurs, Eliassen lui aurait affirmé que s'il n'y a pas de Toufei, donc pas de bandits locaux autour du canal ou sur le site du canal, c'est parce qu'en fait il travaille sur le chantier. Et il lui aurait même donné l'exemple d'un collaborateur du chantier qui n'est autre que le chef des bandits des districts environnants. L'auteur de l'article nous dit qu'il a oublié le nom de ce chef de bandit, que Eliassen a dû lui mentionner, de ce chef donc qui aurait mis ses activités de hors-la-loi en veilleuse pour venir travailler sur le chantier. Et c'est bien dommage car je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'un certain Miao, que nous allons retrouver tout à l'heure. comme ça, quand je parlerai du kidnapping d'Elia Sen. Et qui semble avoir eu beaucoup d'influence dans la région. C'est que, en effet, cette tranquillité relative, dont tout le monde se félicitait pendant la durée des travaux, cette sécurité qui semblait assurée aux représentants de la CIFRC, ont été sévèrement mises à mal par les deux incidents que j'avais mentionnés la dernière fois, à savoir, d'une part, le meurtre d'un missionnaire suédois qui était responsable d'un secteur de la route Silan, donc la route au Gansu, donc sur le secteur dans la province du Gansu, à l'ouest, de cette route qui reliait Xi'an à Lanzhou, pour le compte de la CIFRC. Ce meurtre donc s'est produit en juillet 1932, et puis, d'autre part, donc, le kidnapping d'Elia Sen en mai de l'année suivante, de 1933. Et le moment est par conséquent venu, comme je l'avais annoncé, d'analyser ces deux affaires d'un peu plus près. Le meurtre de Gustaf, avec un F, puisqu'il était suédois, Tornvall, est mentionné, et dûment mentionné, donc meurtre par de Tornvall, non seulement de Tornvall, mais de trois personnes avec qui il voyageait, et meurtre perpétré par un parti de soldats qui appartenait aux forces provinciales du Shanxi. Ce meurtre donc est mentionné dans plusieurs sources imprimées, à commencer par le rapport annuel du département d'ingénierie pour l'année 1932, qui était bien sûr rédigé par Todd et signé par Todd, et où il est simplement dit que Tornvall, je cite, « accomplissait une mission comme administrateur local pour notre compte », et qu'il a été, je cite encore, « capturé et tué en compagnie de trois autres par une bande de soldats de l'armée du Shanxi agissant au mépris de la loi, des « lawless soldiers ». « Lawless » c'est difficile à traduire élégamment. Pour voir d'un peu plus près de ce qui s'est passé, il faut en fait se reporter à un certain nombre de lettres conservées dans les archives Todd qui sont consacrées à cette affaire ou qui y font allusion. En effet, Todd en a fait une affaire personnelle puisque Tornvall était responsable d'un de ses chantiers. Il s'est rendu en hâte au Shanxi en compagnie du secrétaire général intérimaire de la CIFRC qui n'était autre que Casey Lee, que je vous ai déjà plusieurs fois mentionné, que nous allons encore retrouver, donc, dont le nom était Li Guangcheng, bon, enfin peu importe, et Casey, comme l'appelaient probablement ses amis, était donc à cette époque suppléant de Zhang Yuanshan comme secrétaire général de la CIFRC, 32-33, et autrement dit, il était aux premières loges dès qu'il y avait un problème. Donc, Todd se rend au Shanxi avec Casey Lee, et également avec un officier qui représente la légation américaine, puisque parmi les victimes, il y a un citoyen américain. Et il a cherché à toute force, encore que sans grand succès au bout du compte, à obtenir du gouvernement de la province que l'affaire soit éclaircie, que les biens dérobés soient restitués, et d'abord que les corps des victimes soient retrouvés, et enfin que les responsables soient punis. Et puis, comme nous allons le voir, je suis tombé sur deux allusions à cette même affaire dans des sources chinoises, cette fois, qui donnent un éclairage passablement différent. Mais rien de tout cela, qu'il s'agisse donc des archives Todd ou de ces deux mentions dans des sources chinoises, rien de tout cela n'est vraiment concluant, et il est probable que, par contraste avec le kidnapping d'Elia Sen l'année suivante, il est probable que les véritables tenants et aboutissants de l'affaire Tornvall nous resteront toujours obscurs. Pourtant, ce que nous arrivons à en percevoir mérite d'être rapporté, car c'est assez éclairant sur ce qui semble avoir été l'attitude du gouvernement provincial du Shanxi à l'égard de la CIFRC à ce moment, donc juste au lendemain de l'inauguration du canal. Mais avant d'examiner cela, je voudrais commencer par citer un témoignage sur Tornvall qui a le mérite de donner un tout petit peu de substance à ce personnage dont nous ne connaîtrions sans cela que le nom, la fonction et le triste sort. Dans son article sur la route civilisatrice, auquel j'avais fait allusion la dernière fois, publié dans le Times de Londres en juillet 1932, l'ecclésiastique anglais Hewlett Johnson, qui était en fait, c'est peut-être pour ça qu'il s'entendait si bien avec Todd, qui avait commencé avant d'être homme d'église comme ingénieur. Donc Hewlett Johnson a un paragraphe sur un missionnaire dont il ne donne pas le nom, mais qui est évidemment Thornval. C'est d'ailleurs confirmé dans le rapport envoyé par Todd à la CIFRC sur ce voyage donc, qu'il a effectué en compagnie de Johnson. Comme tout ce qu'écrit Johnson, c'est d'un ton un peu exalté, mais après tout, c'est un des rares aperçus, un tant soit peu concret, que j'ai trouvé sur ces missionnaires de terrain, si je puis les appeler ainsi, qui apportaient à la CIFRC une collaboration absolument irremplaçable pour l'aider à administrer ses chantiers. Voici donc ce passage que je cite. Que j'essaie de traduire. À chaque étape de notre voyage, nous étions accompagnés par un missionnaire local. J'étais en admiration devant l'influence de ces hommes et leurs compétences d'administrateurs sur les chantiers routiers. Lorsqu'on le croise sur un vapeur naviguant sur le Yangtze, le missionnaire n'est pas dans son élément. Mais sur un tel terrain, il l'est et il est brillant. Le missionnaire suédois-américain, Thornval, donc, suédois-américain, c'est la seule mention que j'ai trouvée qu'il était à la fois suédois-américain et américain. Le missionnaire suédois-américain qui devait nous accompagner dans le franchissement du col, il s'agit du col Yupan, dont j'avais parlé aussi l'année dernière fois, et où nous avions vu qu'une attaque de bandits s'était produite un peu avant, ce missionnaire donc était exceptionnellement expérimenté. Il restait calme dans le danger, il avait été confronté à 3 révolutions en 4 ans. Rien qu'un ou 2 jours plus tôt, alors qu'il était en chemin pour inspecter les travaux sur cette section de la route, des paysans terrifiés étaient venus le voir et l'avaient supplié de repartir. « Les bandits sont en train de piller un convoi de marchands juste après le tournant. » Le missionnaire et son compagnon tirèrent en l'air. Ils ne tirent jamais sur les gens. Les bandits crurent que c'était des soldats qui arrivaient et prirent la fuite. Un homme du convoi avait eu un bras cassé, les autres furent secourus et des marchandises pour une valeur de 20 000 $ furent sauvées. Et c'est avec un tel compagnon que nous voyageâmes vers le col Yupan. Fin de citation. On voit donc que Thornval était un habitué du terrain et aussi qu'il n'avait pas froid aux yeux. Et l'on relève un détail plus tard, au détour d'une lettre, c'est qu'après sa mort, il a fallu prévenir sa sœur, qui résidait également à Pingyang, donc dans cette ville du Gansu. C'est la première ville importante, en fait, quand on arrive depuis l'Est. Depuis le Shanxi, donc c'est là que Thornval était basé. Donc il avait une sœur également à Pingyang et il n'est pas question de femme ou d'enfant. La mission de Thornval semble donc avoir été une sorte d'affaire de famille et en fait, il est mentionné quelque part qu'il y avait dans tout ce secteur beaucoup de missionnaires suédois, une sorte de mission suédoise. Quoi qu'il en soit, la première mention que j'ai trouvée de la disparition de Thornval et de ses compagnons apparaît dans une lettre de Todd datée du 6 août 1932 et qui est adressée à Eliassen. À cette date, on ne parle que de 3 personnes, et non pas 4, et leur exécution par des soldats, à la suite de laquelle leur corps aurait été jeté dans un puits, n'est pas encore confirmée, même si elle semble probable, et même si elle a été déjà mentionnée par certaines informations dont nous ne connaissons pas l'origine, et que, apparemment, c'est déjà paru dans la presse à Tianjin et dans d'autres lieux. Simplement, on est sans nouvelles d'eux depuis 2 semaines. Plusieurs correspondances vont donc revenir sur cette affaire pendant les mois suivants, et elles permettent de préciser quelque peu le tableau. Les 4 victimes étaient donc d'abord Thornval, ce missionnaire suédois, qui remplissait les fonctions de business manager, c'est-à-dire de responsable administratif pour la CIFRC à Pingyang, là où se trouvait le chantier de la route Silan, dont il avait la charge. Ensuite, un Américain nommé Ekval, dont on comprend qu'il représentait le concessionnaire des automobiles Ford à Hankou, donc sur le Yangtze, et qu'il revenait d'une tournée dans le Nord-Ouest. Et j'avais fait allusion, ou plutôt Johnson faisait allusion, mais je l'avais dit la dernière fois, à l'agressivité des constructeurs automobiles américains dans cette région à ce moment-là. Donc apparemment, Ekval faisait la tournée pour essayer de vendre des voitures. Troisième personnage, un Japonais, dont le nom n'est pas précisé. Et enfin, quatrième personnage, un jeune ingénieur chinois rentré de Chine après des études à l'étranger et qui devait être en quelque sorte en stage, dont le nom était WT Wang, peu importe. Et ceux qui, le malheureux, il n'a pas eu le temps d'avoir une carrière en vue. Et ceux qui les ont arrêtés et sommairement exécutés, c'était donc des soldats appartenant aux forces du principal lieutenant de Yang Rucheng, qui est un personnage important et qui d'ailleurs deviendra gouverneur un peu plus tard, le général Sun Weizhou. Et ça, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans toutes ces affaires à l'époque et qui a écrit des textes pour les Wen Shuzhi Liao beaucoup plus tard. Donc, Sun... Oui. Et c'est qu'elle joue, c'est ça. Voilà. Sun Weizhou. Qui commandait alors la 17e armée, et la 17e armée n'était d'autre que l'armée personnelle, d'une certaine manière, de Yang Rucheng, donc qui en avait confié le commandement à Sun. À qui en voulaient exactement ces gens? Selon certaines versions, les soldats se seraient emparés de voitures de la CIFRC, qui n'avaient pas encore été payées à leurs fournisseurs, on est toujours dans ces tractations avec Ford, et il faut croire qu'on se proposait de les leur vendre, ces voitures, et de fait, ces trafics sur les voitures semblent avoir été, ces trafics, on s'échangeait, on se les vendait, etc., semblent avoir été assez fréquents dans ce qui était encore un peu le Far West chinois. Donc, ils se seraient emparés des voitures de la CIFRC sans les payer, et c'est à cause de leur vive protestation que Thornval, qui était responsable des voitures, si c'était des voitures de la CIFRC, et Ekval, qui était l'homme des automobiles Ford, qui n'avait pas encore été payé. Donc c'est à cause de leur protestation que les quatre passagers auraient en fin de compte été assassinés. Ailleurs, il est dit que la voiture dans laquelle les quatre hommes voyageaient et qui a disparu, qu'on n'a pas retrouvée, était celle d'Ekval. Mais il est clair qu'il y avait plus dans toute cette histoire qu'un simple vol de voiture. Dès la première lettre de Todd, on voit en fait que le passager japonais posait apparemment un problème. Il dit en effet qu'il avait été emprisonné à Lanzhou, donc la capitale du Gansu, pendant un certain temps, comme suspect, sans préciser de quoi. Et c'est de lui que les soldats voulaient s'emparer, au départ, sur les ordres d'on ne sait qui. Or, les deux témoignages chinois dont je parlais sont un peu plus explicites sur ce japonais. C'était, disent-ils, un espion. Et le fait est que, s'il vient d'intervenir dans notre histoire le réseau d'agents secrets très actifs et très efficaces que l'armée japonaise avait déployé sur toute la Chine du Nord et en Mongolie intérieure, longtemps avant l'invasion de 1937, alors l'affaire devient en effet très sérieuse. Voyons donc ce que disent exactement ces deux auteurs chinois. Le premier témoignage est dû à Ma Xiqing, donc ce jeune ingénieur chinois dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui travaillait pour la CIFRC, et que j'en ai parlé plusieurs fois. D'ailleurs, ça montre ce texte, bien que court, contient beaucoup de choses intéressantes, ce qui mérite d'être souligné. Nous avions vu que Ma Xiqing avait été employé sur un des chantiers de la route Xilan, sur la partie qui se trouvait encore à l'intérieur du Shaanxi, où il avait été d'ailleurs témoin d'une terrible épidémie qui avait décimé les travailleurs. Or, c'est juste après cette épidémie que survient, tel qu'il le raconte, l'incident Thornval, et voici comment il le relate. Y compris les parenthèses où il dit « je ne me souviens pas très bien, ça devait être ça, mais je ne suis pas sûr », etc. Donc c'est alors qu'un pasteur de Pingliang, parenthèse, j'ai oublié sa nationalité et son nom, enfreignant les interdictions, prit l'initiative de transporter pour son propre compte des dollars d'argent. Autre parenthèse, à cette époque, Yang Rucheng dirigeait le Shaanxi et il avait interdit de transporter des dollars d'argent au-delà de Tongguan, autrement dit hors de la province. Il se mit de mèche avec un agent secret japonais qui l'emmena dans sa voiture vers l'est. Donc ils redescendent depuis le Gansu. Ils furent pris et tués par des Chinois, les Guozhen, des gens du pays, qui démontèrent et cassèrent la voiture et en enterrèrent les pièces. Todd enquêta, mais ne put trouver de piste. Aussi, arrêta-t-il les travaux. C'est tout. Ses souvenirs sont donc fragmentaires, pour dire le moins, mais ce qui en reste, c'est que c'est Thornval lui-même qui se serait mis dans cette situation en faisant de la contrebande d'argent et en s'acoquinant avec un espion japonais. Mais la raison pour laquelle ses compatriotes, donc ces Guozhen, ces Chinois, se sont emparés d'eux et les ont fait disparaître n'est pas précisée, bien qu'il faille probablement comprendre que c'était pour voler l'argent en question. Concernant d'ailleurs cette interdiction d'exporter de l'argent hors de la province, qui peut sembler bizarre quand on le lit comme ça, et qui, dans le cas présent, expliquerait toute l'affaire, elle est en réalité confirmée par les souvenirs d'un certain Li Weicheng, personnage que vous avez peu de chance de rencontrer ailleurs, mais je mets quand même son nom, Li Weicheng. Qui a été directeur de la Banque provinciale du Shaanxi entre la fin de 1932 et 1938, et qui a donc publié des souvenirs sur cette banque provinciale du Shaanxi dans un des numéros des Wenshe Ziliao, des Shaanxi Wenshe Ziliao, donc les Wenshe Ziliao, les documents sur la culture et l'histoire du Shaanxi, un texte qui est daté de 1964. Donc, d'après lui, cette mesure avait été prise un peu avant son entrée en fonction, mais il la décrit quand même en détail. Et ses explications montrent que les premières années du régime nationaliste au Shaanxi, donc à partir de la fin 1930, avaient été tout à fait chaotiques sur le plan monétaire, en dépit des efforts de cette nouvelle banque provinciale donc, qui a été créée par le gouvernement de Yang Hucheng sur les décombres de l'ancienne banque du Nord-Ouest, tout de suite après son installation à Xi'an. Et c'est la banque du Shaanxi qui émettait la monnaie locale, qui était en principe convertible contre du métal. Et je vous rappelle que la monnaie unifiée de la République de Chine n'a été créée, je crois, que plus tard, je crois, en 1935. Donc, la banque provinciale du Shaanxi émettait la monnaie locale, mais son encaisse métallique, qui était donc sous forme de lingots ou de dollars d'argent, était beaucoup trop faible. Et le problème semble être devenu aigu après l'attaque japonaise sur Shanghai en septembre 1931, laquelle, et là je n'ai pas expliqué pourquoi et il me reste encore à trouver la raison, laquelle aurait provoqué une exportation massive des réserves d'argent du Shaanxi vers Shanghai précisément. Et encore une fois, la raison n'est pas expliquée, il doit y en avoir une. Peut-être qu'on craignait une entrée en guerre générale et que les gens voulaient mettre leurs réserves à l'abri dans les banques de Shanghai, justement. Je ne sais pas. D'où l'adoption au Shaanxi d'un règlement proposé par la banque en mai 1932, donc un peu de temps avant l'incident, limitant sévèrement les quantités de métal qui pouvaient être sorties de la province et instituant des contrôles dans toute une série de districts, c'est-à-dire à la fois les centres commerciaux importants et puis tous les districts frontaliers, surtout frontaliers avec la Chine centrale. Donc des contrôles qui étaient confiés aux forces armées, c'est-à-dire à la 17e armée, et qui étaient assortis d'amendes diverses pour les contrevenants. Et c'est donc dans ce contexte qu'il faut comprendre les propos de Ma Xiqing, l'affaire Tornval se passant en effet en juillet de la même année. Faut-il dès lors imaginer que Tornval cherchait effectivement, pour une raison que nous ne connaissons pas, à sortir de la province un stock d'argent dont il disposait dans sa mission au Gansu, qu'il s'est fait arrêter par des soldats près de Xi'an pour un contrôle, qu'il a refusé quelques chantages, peut-être en rapport avec les fameuses voitures dont il était question tout à l'heure, et que donc il s'est fait tuer avec ses compagnons, son argent étant dérobé par les soldats, qui ont ensuite dissimulé soigneusement les traces de leurs coups en faisant disparaître la voiture et aussi les corps. Faut-il supposer tout cela, pour le moment, mystère? Et le mystère s'épaissit encore quand on examine le second témoignage dont je parlais et qui propose une toute autre interprétation. Ce témoignage-là est dû à un certain Li Zhegang, qui a été un collaborateur très proche de Yang Hucheng, Li Zhegang. Li Zhegang, qui était une sorte de secrétaire de Yang Hucheng, entre 1928 et 1936. Et ce témoignage, on le trouve dans un recueil de souvenirs sur Yang Hucheng, un livre qui est paru en 2003 et qui s'intitule Yang Hucheng tel que je l'ai connu, Wu Su Zhi Dao de Yang Hucheng. Et en fait, c'est une série publiée par le même éditeur sur toute une série de personnages connus de l'époque républicaine. Ce livre se présente comme une sorte de biographie à plusieurs voix qui reproduit les témoignages oraux de personnes qui ont connu Yang Rucheng et même les propres souvenirs de Yang Rucheng recueillis on ne sait pas quand ni où. Et d'une manière générale, la présentation de ce livre, ça c'est typique de certains livres chinois d'ailleurs, n'est absolument pas rigoureuse et rien n'est dit sur comment et quand ont été collectés tous ces textes. Mais ils sont intéressants. Le témoignage de Li Zhegang en particulier est très intéressant dans la mesure où ce personnage semble avoir été ou a été mêlé, il raconte exactement comment, de très près à beaucoup de choses importantes pendant la période en question. Et donc il évoque l'affaire Tornval au passage et d'une façon qui est à la fois précise et frustrante. Il ne mentionne pas le jeune ingénieur chinois, lui aussi parle de trois personnes, il ne mentionne pas le jeune ingénieur chinois qui accompagnait Tornval, mais il donne les noms et la nationalité d'abord de Tornval et ensuite des deux autres, c'est-à-dire Ekval et le japonais dont nous apprenons ainsi qui s'appelait Koizumi Kotaro, peu importe, c'est pas la peine de l'écrire, mais donc il prend tout d'un coup une réalité. Dans ce témoignage, il n'est pas question d'argent, mais Li Zhegang affirme que les trois personnages étaient tous des espions. Le japonais ayant recruté les deux autres, qu'ils avaient été repérés pendant leur péril par Yang Rucheng, dit-il, c'est-à-dire on suppose par ses services, c'est probablement l'armée, et qu'ils avaient été interceptés, qu'on avait trouvé sur eux des brouillons de cartes du Gansu, du Ningxia et du Xinjiang, ainsi qu'un code télégraphique secret, et des lettres révélant qu'ils cherchaient à s'acoquiner avec les minorités nationales, c'est-à-dire, suppose-t-on, les musulmans qui sont très nombreux dans cette région et qui causaient souvent des problèmes. Et la suite est encore plus surprenante. D'après Li Zhegang, Yang Rucheng aurait eu peur que, s'il livrait ses espions à Nankin, au gouvernement central, Chiang Kai-shek, qui était un couard et qui tremblait devant les impérialistes, les aurait libérés. Et par conséquent, mû par sa passion patriotique et anti-japonaise, Yang Rucheng les aurait d'emblée fait exécuter. D'où de très vives protestations des représentations des trois pays concernés, donc la Suède, le Japon et l'Amérique, et les États-Unis, auprès de Chiang Kai-shek, qui est furieux et qui menace Yang Rucheng de le destituer s'il n'arrange pas l'affaire. Et Yang, après quelques mois de tensions, pendant lesquelles des diplomates américains et japonais sont venus s'installer à Xi'an pour mettre la pression, et ce détail est confirmé par Todd, en ce qui concerne en tout cas les Américains, donc, après ces quelques mois de tension, Yang aurait fini par trouver une échappatoire. L'auteur ne précise pas laquelle, mais c'est probablement en acceptant de payer l'indemnité dont il va tout de suite être question. Quoi qu'il en soit de ces diverses explications, et il ne serait pas totalement impossible, avec un peu d'imagination, c'est vrai, de toutes les réconcilier, donc quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que, comme je le disais la dernière fois, on devine derrière ces incidents avec des étrangers tout un arrière-plan de manœuvres, de tractations, et tout simplement de faits, d'actes, qui nous échappent complètement, et qui, peut-on supposer, échappait aussi bien à Todd et à ses collègues lorsqu'ils venaient sur place pour enquêter et pour exiger réparation. Et cela, même si Todd exprime divers soupçons dans ses correspondances. Et puis, peut-être, je me demande des fois, peut-être qu'il en savait plus que ce qu'il dit dans ses lettres et qu'il préférait garder pour lui certains détails embarrassants. Par exemple, que son cher Tornval trafiquait avec de l'argent ou avec des voitures. Todd est donc allé au Shanxi pour tirer les choses au clair, en août 1932, à peu près une quinzaine de jours après l'incident, mais apparemment il s'est heurté à un mur. Je cite, « Un tel nombre de gens étaient impliqués, c'est ce qu'il écrit dans une lettre du 2 septembre, que la plupart des tentatives pour rétablir les faits étaient découragées par ceux qui étaient en position de nous menacer indéfiniment. » Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. Et dans la même lettre, il fait également allusion à, je cite encore, « la façon scandaleuse dont ont été traités les missionnaires lorsque Tornval a disparu et qu'ils ont voulu suivre les indices dont ils disposaient pour retrouver son corps. » Pas plus de détails sur la façon dont ces missionnaires ont probablement écartés. La seule chose qui semble assez claire, c'est qu'à la base, c'était l'armée qui était impliquée et qu'elle était couverte bon gré mal gré par le pouvoir politique à Xi'an, c'est-à-dire par Yang Rucheng, qui était en même temps évidemment le plus haut militaire de la province. À moins bien sûr que ce soit lui-même qui ait donné les ordres, comme l'affirme sans embâge Li Zhegang. En novembre encore, Todd écrit à Eliassen, qui est à ce moment en vacances en Norvège, il lui écrit qu'il est, je cite encore, qu'il est assez bien établi que les fautifs sont certains soldats de Sun, c'est-à-dire Sun Weizhou, et qu'ils ont agi sous les ordres de leurs officiers. Ce n'est probablement pas à Tornval qu'on en avait, Mais tout ce crime a été commis de sang-froid, brutalement et de façon tellement impudente que le choc pour les étrangers a été égal à celui causé par l'incident de Nankin. L'incident de Nankin étant le fait qu'au moment où les nationalistes se sont emparés de la ville en 1927, plusieurs étrangers ont été malmenés ou peut-être même exécutés, je ne sais pas, mais enfin, ça avait été un grand scandale dans les milieux étrangers de Chine, donc en 1927. Et Todd, faisant probablement allusion aux menaces de Chiang Kai-shek dont parlait Li Zhegang, Todd se demande si tout cela ne va pas coûter son poste à Yang Rucheng. Une autre lettre au mois de décembre permet de voir que, donc deux ou trois mois plus tard, permet de voir que le gouvernement du Shanxi a finalement cherché à s'en tirer avec une compensation pécuniaire et une condamnation pour la forme. 21 000 dollars, ou yuan, hein, donc des dollars chinois, ont été versés pour rembourser l'automobile et les sommes d'argent dérobées, et un soldat qui a reconnu avoir participé au meurtre a été fusillé, donc le lampiste. Mais, ajoute Todd, la trentaine d'autres soldats qui étaient dans le coup sont supposés être en fuite. De même, il semble difficile d'identifier l'officier, plus haut dans la hiérarchie, qui aurait donné la permission ou l'ordre pour ce crime. Fin de citation. Et aussi bien, les corps des victimes ne seront jamais retrouvés, comme je l'ai dit. Et on peut ajouter qu'en juin 1933 encore, donc un an plus tard presque, ou six mois plus tard, en pleine affaire Eliassen, une somme de 13 100 dollars qui avait été promise par le gouvernement pour rembourser les voitures de la CIFRC volées par les soldats, que cette somme n'a toujours pas été versée. Tout cela reste donc passablement obscur. Et pour compliquer encore les choses, on trouve dans une lettre de John Baker, adressé à la fin septembre 1932 à Wai Tzu, donc Joey Chun, ce personnage que j'ai aussi mentionné déjà, et qui était à ce moment-là président intérimaire de la CIFRC. Donc dans une lettre qu'il a pris l'initiative d'écrire à Tzu, au président de la CIFRC, on trouve dans cette lettre de Baker des allusions qui laissent entendre que, ou qui suggèrent que Thornval aurait également pu être victime de manœuvres au sein même du comité provincial de la CIFRC à Xi'an, avec à la clé, croit-on comprendre, un problème de corruption ou de détournement de fonds. Des manœuvres dans lesquelles les autorités provinciales ou les militaires auraient été impliqués d'une manière ou mises en cause d'une manière ou d'une autre, puisqu'il y avait en effet des notables chinois dans ce comité provincial. Baker affirme en effet, et je trouve quand même ça assez extraordinaire, qu'à son avis, les collaborateurs de la CIFRC qui travaillent sur des chantiers dans l'intérieur de la province se trouvent désormais dans une situation encore plus dangereuse qu'à l'été 1930, lorsque lui-même y était, j'avais raconté cet épisode, et que la province était livrée à l'anarchie la plus complète. Et s'il en est ainsi, suggère-t-il, c'est parce qu'à présent, ils courent le risque d'être menacés sur leurs arrières, parce qu'on ne peut plus compter sur l'intégrité de l'organisation à Xi'an même. Une ténébreuse affaire, donc, et que chaque nouvelle donnée semble rendre encore un peu plus ténébreuse. Mais ce qui nous concerne plus directement ici, ce sont les réactions des Américains de la CIFRC et surtout les conséquences sur leur collaboration avec les autorités du Shanxi, qui jusqu'alors avaient donc semblé plutôt harmonieuses. Todd, comme on l'a vu déjà, critique violemment l'attitude du pouvoir provincial, qui a visiblement tout fait pour protéger les coupables. Dès sa première lettre, il affirme « J'éprouve assurément peu de respect pour le gouvernement qu'ils ont au Shanxi ». Et à propos de la façon scandaleuse, comme il disait, dont ont été traités les missionnaires qui essayent de retrouver la trace de Thornval, il dit qu'il ne peut expliquer cela que comme un comportement de païen. « Heathenisme », il dit, donc c'est comme du paganisme. Entendons un comportement de sauvage, ce qui, ajoute-t-il, implique de la part de ces gens une lâcheté de la pire sorte. Et dans une autre lettre encore, celle où il évoque le dédommagement dont je parlais tout à l'heure, il écrit « Tout ceci suggère une situation pourrie et que le Shanxi n'est pas dans un état très stable pour le moment ». Et je pourrais multiplier les citations. Baker, par exemple, écrivant au président de la CIFRC que le fait que le meurtre de Thornval a eu lieu à la porte même du personnage le plus haut placé du gouvernement provincial est la preuve que la preuve d'une situation morale ou d'une organisation mauvaise au cœur du gouvernement lui-même. Dans ces conditions, et tant qu'il n'y aura pas eu clairement un changement d'attitude du côté du pouvoir à Xi'an, la seule chose à faire, c'est de fermer tous les chantiers et de retirer du terrain les ingénieurs de la CIFRC. Et c'est en effet ce qu'a décidé Todd de faire dès la fin du mois d'août. Et nous avions ainsi vu que Ma Sitting, qui travaillait sur la route dans l'ouest du Shanxi, a été rapatrié à ce moment au bureau d'ingénierie de la CIFRC à Pékin pour y faire des cartes et des calculs. Baker n'était pas à ce moment-là, ne travaillait pas à la CIFRC, il doit se trouver à Nankin ou à Shanghai. Baker fait savoir à Todd qu'il approuve entièrement sa décision. Et un peu plus tard, donc, il prend sa plume, je viens de le mentionner, pour dissuader le président Tsour et le comité exécutif de la CIFRC d'entreprendre quoi que ce soit au Shanxi tant que les choses n'auront pas changé. Au Shanxi, où l'on signale justement une famine à l'ouest de Xi'an, et où l'on peut donc être sûr qu'il va y avoir des demandes d'aide. Détail intéressant, dans une autre correspondance motivée par cette affaire, Baker n'hésite pas à affirmer que de toute façon, les gens du Shanxi détestent leur gouvernement. Peu importe sur quoi ils se basent pour le dire, alors qu'ils ne semblent pas avoir remis les pieds dans la province depuis l'été 1930, autrement dit depuis avant l'arrivée des nationalistes et de Yang Rucheng, mais apparemment c'est une notion qui parle aux Américains. Et ceux-ci s'impatientent ou se désolent, comme on voudra, de voir les habitants de la province accepter passivement un pouvoir contre lequel ils devraient au contraire se dresser, étant donné sa faillite morale et s'ils souhaitent que la CIFRC poursuive son aide. Telle est l'opinion de Baker, donc, et c'est aussi ce qu'écrit Todd un peu plus tard, je cite encore, « Le Shanxi doit avoir un gouvernement qui reconnaît ses responsabilités » et il faut faire comprendre aux habitants du Shanxi qu'ils doivent exiger un tel gouvernement ou subir les conséquences de la soumission au terrorisme, et les conséquences étant que la CIFRC refuse désormais de les secourir. Ils peuvent protester d'une telle manière qu'ils recevront de l'aide s'ils le souhaitent. Pour le moment, aucun d'entre nous ne les a entendus protester, ou s'ils l'ont fait, c'était très faiblement. Cela étant, la CIFRC n'a pas attendu que les habitants du Shanxi protestent contre leur propre gouvernement pour rouvrir ces chantiers. Dans la lettre où il faisait état des promesses de remboursement du gouvernement, mais où il n'en disait pas moins que la situation au Shanxi était complètement pourrie, Todd ajoutait malgré tout « Nous espérons des jours meilleurs avant le printemps ». Pourquoi des jours meilleurs au printemps, c'est d'ailleurs le printemps 1933, il ne le précise pas, mais c'est un fait que le chantier de la route Xi'an est rouvert, semble-t-il, dès le début de 1933, ce qui implique que les quelques mesures d'indemnisation prises par Xi'an ont été considérées comme un geste suffisant, et surtout que les menaces sur la sécurité des personnes ne sont pas telles qu'il faille abandonner un projet qui est déjà terminé à 70%, comme il est précisé quelque part, dont on est persuadé qu'il aura des conséquences importantes en termes justement de sécurité, et enfin pour lequel on dispose de fonds. Or, peu après, nouveau coup de tonnerre, et qui d'une certaine manière va faire encore plus de bruit, peu après, c'est la capture d'Eliassen par des bandits sur le site même du canal dont il avait mené à bien la construction un an plus tôt. En avril 1933, Eliassen, qui vient de rentrer de ses vacances en Norvège, travaille sur le chantier de la route Xi'an au Gansu, où il fait d'ailleurs état de nouveau de graves attaques de bandits sur son chantier. Il annonce à Todd son intention d'aller quelques jours sur le site du Weibei, donc il y avait peut-être un jour de route pour retourner au Shanxi, sur le site du Weibei au début du mois de mai pour vérifier l'état des installations à la tête du canal Tinghui. Et c'est donc ce qu'il fait en compagnie d'un collaborateur chinois nommé Henry Chuan, que lui aussi je crois que je l'avais déjà mentionné, et dont je ne connais, enfin je vais en reparler d'ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que son patronyme, il est désigné comme ça partout, ça devrait être Chuan. Mais je ne connais pas son prénom chinois. Donc Henry Chuan, qui travaille à ce moment sur le chantier du système de distribution du Weibei. Et là, comme je l'ai déjà mentionné, les deux hommes se font enlever par des bandits qui vont les emmener de cache en cache dans les collines au nord du site et qui exigent une rançon. Heureusement, alors même qu'une extrême agitation règne à Xi'an, où tout le monde s'est mobilisé pour essayer de les libérer, et alors que de difficiles négociations ont été entreprises avec les ravisseurs, à ce moment-là, Eliassen et Chuan réussissent à fausser compagnie à leur garde et à regagner la plaine sans être inquiétés. Les documents officiels de la CIFRC mentionnent l'incident, mais sans donner de détails. En revanche, les archives Todd contiennent une assez grande quantité de correspondances et de documents à l'aide desquels je n'ai rien trouvé dans de texte chinois détaillé là-dessus, contrairement à l'affaire Turnval. Mais les archives Todd, donc, contiennent beaucoup de choses, grâce auxquelles il est possible de reconstituer de façon tout à fait détaillée cette histoire rocambolesque, et surtout possible d'en comprendre, et je crois assez bien, les tenants et les aboutissants. Je ne peux pas ici énumérer toutes ces pièces, mais je mentionne quand même les trois plus importantes. La première, c'est un long rapport de Todd au secrétaire général intérimaire de la CIFRC, donc toujours Casey Lee. Un rapport daté du 6 juin 1933, racontant toutes les démarches qu'il a fallu faire et retraçant les méandres des négociations avec les ravisseurs d'Eliassen, dans lesquelles les personnes les plus diverses ont été impliquées, tant du côté de la CIFRC que du côté du gouvernement du Shanxi. Ça, c'est la première pièce importante. La deuxième, c'est une lettre de Todd à son ami Baker, datée du même jour. Donc la première lettre est rédigée à la gare de Shetiajuang et dit « j'ai une demi-heure avant mon train » et la deuxième lettre est sur le train en direction de Taïwan. Todd circulait avec sa machine à écrire de toute évidence. Donc une lettre de Todd à Baker datée du même jour racontant les mêmes événements mais sur un ton nettement plus libre, on est entre Américains cette fois-ci, et avec des détails supplémentaires intéressants. Et enfin une lettre d'Eliassen, cette fois également destinée au secrétaire Casey Lee, daté du 24 juin, est suivi d'un long mémoire où il rend compte de sa captivité en se basant sur le journal dont il dit qu'il n'a pas cessé de le tenir, même pendant sa captivité. Et s'il envoie ce mémoire, c'est pour couper court, dit-il, à toutes les histoires fantaisistes qui ont été colportées ou qui sont en train d'être colportées sur cette affaire par son compagnon de captivité, Chuan, après que celui-ci est retourné à Pékin. Et j'aurai à redire un mot de ce personnage un peu bizarre, et des bruits qu'il a répandus. Enfin, il n'est pas inintéressant de remarquer au passage que la dernière partie du roman d'Eliassen, donc la rivière du roi dragon, Dragon Wang's River, dont je vous ai rappelé l'existence la dernière fois, dernière partie qui est consacrée au kidnapping, enfin à cette aventure, s'avère tout à fait conforme à la réalité telle qu'on arrive à la reconstituer d'après les documents contemporains que je viens de mentionner. Et j'ai en fait lu le roman avant d'avoir la possibilité de voir les archives. Et force est de reconnaître que cette réalité était en elle-même suffisamment romanesque pour qu'il n'ait pas été besoin d'en rajouter. L'histoire est en effet assez extraordinaire, mais je vais être obligé d'en laisser tomber pas mal de détails par manque de temps, et aussi parce que si je m'y attardais trop longtemps, cela nous éloignerait quelque peu du sujet. Mais ces sources dont je viens de parler révèlent aussi beaucoup de choses parfois tout à fait étonnante sur le sujet, justement. Je veux dire sur la structure de la société du Weibei et sur ses systèmes de pouvoir à ce moment, sur l'impact du canal inauguré un an plus tôt, qui n'était pas nécessairement ressenti par tout le monde de manière positive, sur les difficultés que le gouvernement du Shanxi avait à imposer son contrôle, même à 40 km de Xi'an, presque 3 ans après son installation, et en fait sur l'incroyable anarchie qui apparemment prévalait encore dans la région. Et puis sur d'autres points encore que j'essaierai donc d'analyser d'un peu plus près la semaine prochaine. Résumer l'affaire n'est à vrai dire pas simple. Pendant les 2 semaines où Eliassen et Chuan sont entre les mains de leurs ravisseurs, il faudrait en fait poursuivre 2 narrations parallèles. D'un côté celle de leur captivité proprement dite, qui renvoie donc plus ou moins au récit rédigé par Eliassen, et de l'autre, la narration des efforts pour les libérer, qui renvoie cette fois au compte-rendu rédigé par Todd lui-même. Très brièvement, lorsque Eliassen se rend à la tête du canal le 6 mai, au lieu dit Yuetiapu, ça c'est un endroit important pour quiconque s'intéresse au canal, c'est un village en fait, donc là... la pente, enfin le versant de... Non, pardon, de la famille Yue. Je vais tout de suite vous faire un petit croquis. Yue Tia Pu, prononcé Po normalement, mais Pu au Shanxi. Donc, il se rend le 6 mai à cet endroit, dans ce qui est un village, donc, où se trouvait pendant le chantier le bureau en fait, des ingénieurs près du chantier de construction du barrage. Ayant ignoré certains avertissements comme quoi il pourrait y avoir des bandits ou des communistes dans le secteur, puisqu'aussi bien dira-t-il ensuite dans son compte-rendu, il en avait déjà rencontré des bandits et des communistes pendant le chantier, et que c'était des gens avec qui on pouvait toujours trouver des arrangements. Donc, s'étant rendu là-bas, il tombe effectivement dans un guet-apens. Et là, quand même, je vous fais un très très rapide croquis, et la semaine prochaine, je vous montrerai des cartes plus détaillées, car la topographie de tout ce site est importante pour comprendre ces choses. Donc, en gros, en très gros, vous avez la rivière Ting, hein, on avait déjà vu ça, la Wei. Xi'an est à peu près par là. Et le canal donc, qui se branche là, et le Yuetiapu hein, se trouve ici, ce village à la tête du canal. Et l'autre endroit que je mentionnerai plusieurs fois, c'est la sous-préfecture, le district de Tingyang. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Sanyuan, que j'ai souvent mentionné. Donc ce sont les deux principaux districts du Weibei. Donc Eliassen et son compagnon sont allés là, et c'est là qu'ils ont été attrapés. Et donc au nord, tout immédiatement au nord, vous avez une chaîne de montagnes, pas très élevée, mais extrêmement escarpée, et peu engageante, je dois dire. Donc, ils sont allés le 6 mai à cet endroit et se sont fait attraper. Le groupe bien armé qui s'empare d'Eliassen et de Tuan est composé d'un détachement se désignant comme l'avant-garde de la 26e division de l'armée rouge et d'une troupe de bandits locaux dont le chef est un certain Miao Tiaxiang. Donc le Miao dont je parlais, je n'ai nulle part trouvé écrit son nom en chinois, donc je ne sais pas les caractères. Un certain Miao qui avait lui aussi travaillé pour le chantier les années précédentes. Apparemment, les communistes se sont momentanément alliés aux bandits locaux car sans leur protection, ils seraient incapables de poursuivre leurs activités de propagande dans la région et plus spécifiquement, sans l'aide des bandits, ils n'auraient pas pu s'emparer d'Eliassen et de Tuan. Les communistes disparaissent au bout de 3 jours. Apparemment, ils n'ont pas réussi à s'entendre avec les bandits sur le partage de la rançon demandée. Les bandits sont allés cacher les prisonniers dans la montagne pour que les communistes ne s'en emparent pas, et donc les communistes ont quitté le voisinage. Pendant plus de 2 semaines, les deux prisonniers vont être déplacés d'un lieu à un autre à travers les collines escarpées qui surplombent le site du Weibei, et cachés soit dans des villages, soit dans des grottes dissimulées au fond de ravins inaccessibles. 5 jours après leur capture, ils sont informés par lettre des négociations qui sont en cours pour leur libération, et leur ravisseur leur ordonne d'écrire à leur correspondant dans le Weibei, qui est un missionnaire, également médecin, qui s'appelait William Kelly, et qui était donc basé justement à Tingyang, où se trouvait aussi le bureau du site Weibei, et qui avait servi d'administrateur pour le chantier de la CIFRC. Donc, ils doivent écrire, on leur dit d'écrire à Kelly, qui s'occupe également des négociations, pour le prévenir que si le gouvernement envoie des troupes, les prisonniers seront immédiatement exécutés. Les prisonniers commencent aussi à comploter leur fuite en essayant de s'entendre avec certains de leurs gardiens qu'ils connaissent car ils avaient travaillé pour le chantier. Et un des meilleurs contacts de ce point de vue-là, c'est un proche parent de Miao, ce n'est pas très clair si c'est son frère ou un cousin, du chef des bandits, donc, qui avait été dans le passé un précieux collaborateur sur le chantier, et qui depuis lors avait été affecté, et c'était une mission importante, à la garde des écluses contrôlant l'alimentation du canal. Par la suite, ils sont emmenés, Eliassen et Tuan sont emmenés plus loin par des hommes qui semblent avoir perdu le contact avec le gros de la troupe et qui commencent à perdre le moral. On apprend que l'armée se rapproche, mais aussi que les négociations pour la rançon se poursuivent. Mais à la fin du compte, donc, Eliassen finit par profiter de l'indécision de ses gardiens et par leur faussée compagnie le 23 mai, donc 17 jours après avoir été capturé. Il réussit à regagner la rivière Ting et le site du barrage qui avait été entre-temps occupé par un détachement de l'armée gouvernementale, de l'armée du Shanxi. Il est donc sauvé et Tuan le rejoindra peu après. Il a convaincu ses gardiens de le laisser partir en leur promettant une rançon de 2 000 $. Qu'il doit leur remettre à Sanyuan 2 jours plus tard, sans faute. Et la suite de l'histoire montrera qu'il a bien reçu cette somme du gouvernement pour pouvoir tenir sa promesse, mais qu'en réalité, il l'a gardée pour lui. Telle est donc l'histoire telle que l'a vécue Eliassen pendant sa captivité. Et quand je reviendrai sur les enseignements qu'on peut tirer de toute cette affaire, nous verrons qu'un certain nombre de choses qu'il a vues et entendues livrent des informations précieuses sur l'état d'arriération économique et de quasi-anarchie où se trouve à ce moment la société, dans cette frange nord de la région du Weibei, et aussi sur une présence communiste qu'on n'aurait pas soupçonnée dans cette région à cette date, dans la mesure où les Basques, on est plusieurs années ou deux ans avant la Longue Marche, enfin l'arrivée de la Longue Marche, dans la mesure où les bases communistes du Shanxi étaient situées beaucoup plus au nord. Mais il me faut d'abord exposer l'autre versant de la narration, c'est-à-dire les tractations qui se sont poursuivies pendant la même période, pendant les mêmes jours, entre Xi'an et les villages de la tête du canal, cette région que Todd appelle quelque part le Bandit Land, donc le territoire bandit, au pied des collines qui bordent le Weibei. C'est-à-dire là où on pouvait entrer en contact avec les kidnappeurs d'Eliassen et de son compagnon. Dès qu'on connaît à Pékin la nouvelle de l'enlèvement d'Eliassen, c'est le 8 mai, donc deux jours après l'événement, Kaizili, toujours lui, le secrétaire général de la CIFRC, prend l'avion pour Xi'an. Et vous noterez que la simple existence de ces communications par avion est alors une nouveauté, dont je redirai rapidement un mot plus tard. Todd va le rejoindre un peu plus d'une semaine après, le 17 mai, en compagnie de deux ingénieurs chinois de la CIFRC avec qui il travaille depuis longtemps. En fait, on n'avait pas fait appel à lui, il le reconnaît volontiers. Il n'avait reçu aucune autorité de son employeur, donc de la CIFRC, mais il s'est en quelque sorte imposé, et même assez bruyamment, semble-t-il. Sur place, le docteur Kelly essayait depuis le début de négocier avec les bandits, comme nous l'avons vu. Il leur avait envoyé d'emblée 500 dollars, enfin 500 yuan, ainsi que des sacs de farine, pour montrer qu'il était sérieux. Et par ailleurs, le magistrat de Tingyang avait été désigné pour appuyer ses efforts. J'ajoute qu'au terme de l'affaire, ce magistrat sera renvoyé de son poste pour n'avoir pas été capable d'assurer la sécurité d'Eliassen sur son territoire. De son côté, Yan Rucheng, donc le gouverneur du Shanxi, aurait pris l'affaire en main et envoyé un négociateur, mais sans succès notable. Et on apprend aussi que Li Zhe a essayé pour sa part d'entrer en contact avec le chef des bandits, également sans succès. L'armée s'emploie pour sa part, sur les ordres de Yan Rucheng, à bloquer les routes par lesquelles les bandits pourraient s'enfuir, ce qui est assez illusoire d'ailleurs, parce qu'ils s'enfuient justement là où il n'y a pas de route. Et on envoie même 6 soldats en civil se mêler au camp des malfaiteurs pour les espionner, mais ils se font prendre et un seul réussit à s'en sortir. Les 5 autres sont tués, 3 d'entre eux torturés à mort sous les yeux d'Eliassen et de Chuan. Dès son arrivée à Xi'an, Todd va voir son vieux collègue Li Yijie, qui est responsable du bureau d'hydraulique du Weibei, et dont il dit en plusieurs occasions, en cette occasion et dans d'autres aussi, que dans ce genre de situation, c'est le plus sûr allié de la CIFRC. Il va aussi voir le secrétaire général du gouvernement provincial, un certain Geng Shoubo. Ensuite, il va voir Yan Rucheng lui-même, en personne. Et enfin, il va voir quelqu'un qui s'appelle Linson, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais qui était pourtant très important. Il était président de la République de Chine, en titre. Linson était un grand ancien de la révolution sun yat-sénienne et du Kuomintang, et depuis 1930, il était président du gouvernement nationaliste. Le titre en chinois, c'est Kuomintangfu Zhuxi. Et c'est un poste dont Chiang Kai-shek lui-même héritera en 1943 à la mort de Lin Sun. Le président du gouvernement, donc possédant ce titre, n'a en réalité aucun pouvoir véritable, du moins tant que c'est sa seule fonction, comme c'était le cas pour Lin Sun. En revanche, pour Chiang Kai-shek, bien sûr, cette présidence n'était qu'une médaille supplémentaire. Mais le seul fait qu'on ait envoyé Lin Sun à Xi'an pour superviser les tractations, en tout cas c'est ce qu'affirme Todd, et il était là, ça c'est sûr, indique malgré tout que Nankin prenait cette affaire très au sérieux. Et pour sa part, Yan Rucheng savait pertinemment qu'il était menacé politiquement et qu'il avait tout intérêt à ce que l'affaire se termine bien. Elle se terminera bien, en effet, mais Yan Rucheng n'en sera pas moins limogé de son poste de gouverneur très peu de temps après. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, la présence du président Lin Sun aura indirectement un effet dissuasif sur les bandits du Weibei occidental, car on l'a emmené visiter le canal, entouré d'un très fort contingent militaire. Et comme les hors-la-loi qui sont assez mal armés, en particulier, on le voit d'après le témoignage d'Eliassen, comme les bandits évitent à tout prix de se frotter aux troupes régulières, ils préfèrent se replier dans les montagnes au nord ou alors de l'autre côté de la rivière Ting. Donc leur banditland, comme ils l'appellent, c'est cette région. Et alors, ou bien ils s'enfuient là, ou bien ils franchissent la rivière et disparaissent. En fait, dès son arrivée, Todd a appris que les choses n'ont pas beaucoup avancé et que les responsables à Xi'an, donc les responsables politiques, qui ont eu une réunion la veille pour discuter du problème et faire le point, sont très découragés par cette absence de progrès. Et comme il l'écrit dans ses lettres, il va donc assurer lui-même le leadership. Il propose à Li Yizhe de prendre directement les choses en main, eux deux. Et avec l'approbation du gouvernement, ils font porter par un des ingénieurs chinois dont Todd a requis les services, des lettres à Miao, au chef des bandits, et je reviendrai plus tard sur ce personnage que tout le monde semblait connaître, et sur l'apparente facilité avec laquelle on communiquait avec lui ou avec ses lieutenants. Donc des lettres dans lesquelles ils se prévalent de leur qualité d'ingénieurs en chef et du fait qu'ils appartiennent à un comité de trois personnes, le troisième étant un bureaucrate du gouvernement provincial, chargé d'arbitrer tous les conflits relatifs au projet du Weibei. Ils exigent donc la libération immédiate des captifs, sans quoi tous les travaux s'arrêteront. Et le système de distribution était encore en cours d'aménagement, et en plus avec du travail payé en secours, car, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était de nouveau en période de disette. En outre, donc toujours si les prisonniers ne sont pas immédiatement relâchés, ils feront placarder partout dans la région des affiches expliquant que la responsabilité de cet arrêt des travaux revient aux ravisseurs, nommément désigné, à qui il incombera désormais de terminer eux-mêmes les dix travaux et de trouver l'argent pour cela. En d'autres termes, Todd et Li Yizhe ne veulent pas interpréter l'affaire comme un simple crime crapuleux, un enlèvement contre rançon. Ils la considèrent comme un conflit tournant autour du canal. Autrement dit, leur stratégie, dont nous verrons qu'elle n'était en effet pas sans justification, leur stratégie consiste à jouer l'intérêt de la population du Weibei, cet intérêt étant que les travaux du système d'irrigation soient menés à bien, contre les actions des bandits, lesquels sont également des paysans du Weibei, mais apparemment avec des intérêts différents. Et c'est là un aspect important de la question, encore une fois, que j'examinerai de plus près la semaine prochaine. En même temps, le deuxième ingénieur chinois dont Todd a recruté les services est envoyé en territoire bandit pour essayer de négocier la libération des prisonniers. De son côté, Yang Rucheng, qui est venu en personne à Tingyang pour suivre l'affaire, accorde tous les passeports nécessaires pour que les émissaires de Todd ne soient pas arrêtés par les troupes qui ont été déployées aux alentours, et il s'engage à ne pas faire bouger ses hommes pendant que les négociations continuent. Et ces négociations s'avèrent en fin de compte plus faciles que prévu, car Miao et ses acolytes sont allés se réfugier de l'autre côté de la rivière et sont inatteignables. En revanche, les habitants des villages environnants, qui savent très bien où se trouvent Eliassen et Chuan, sont prêts à les libérer contre une récompense, somme toute modeste. Après quelques jours de tractation, dont je vous passe les détails, c'est assez compliqué, il y a des allées et venues, etc., on s'accorde en fin de compte sur une somme totale de 5000 yuan. Alors qu'au début, les raviseurs en exigeaient 100 000, voire 150 000. Une somme de 5 000 yuan qui sera partagée entre les chefs de village, les gardiens des prisonniers et les soldats stationnés aux alentours. L'ingénieur chinois envoyé négocier, est-il précisé quelque part, a réussi à acheter, un buy-off, a acheté 4 chefs de village pour 1 000 dollars. Il a de même acheté 10 hommes qui étaient censément chargés de garder Eliassen et Chuan, en fait il y en avait beaucoup moins, pour 2 000 dollars. Et il a promis 2 000 dollars de récompense aux soldats qui ont recueilli Eliassen après qu'il se soit évadé. Il faut donc trouver ces 5 000 dollars dans les 24 heures. Et il est entendu que si les prisonniers ne sont pas libérés à la remise de l'argent, on fera donner l'armée. Todd se précipite à Xi'an, où Li Yizhe, avec l'aide du secrétaire général Geng, est obligé d'emprunter personnellement la somme, en espérant se faire rembourser plus tard par le gouvernement, lequel s'exécutera en fin de compte, mais non sans traîner des pieds et en essayant de contester la légitimité de certaines récompenses. Donc Li Yizhe trouve l'argent. Et lorsque Todd revient à Tingyang avec ses caisses d'argent, il tombe sur Eliassen et Chuan, qui ont juste réussi à se libérer tout seuls. mais les récompenses promises devront quand même être distribuées. Un peu plus tard, notons-le, Baker répondra au compte-rendu que Todd lui a envoyé, auquel je faisais allusion tout à l'heure, en se demandant si la CIFRC n'est pas allée un peu vite en promettant ce qui équivaut à une rançon. Car, dit-il, c'est la porte ouverte à tous les chantages. En effet, la menace d'abandonner le chantier si les choses ne sont pas réglées de façon satisfaisante aurait été en réalité difficile à appliquer, dans la mesure où on ne pouvait pas décemment arrêter les travaux qui étaient presque terminés et pour lesquels les fonds avaient déjà été levés. Dans sa réponse, Todd reconnaît que promettre une rançon n'était pas l'idéal, mais il fait allusion à Lindbergh. Personne ne l'a critiqué alors, dit-il, Lindbergh, dont l'enfant, le fils ou le bébé, je crois même, avait été kidnappé et qui avait tout de suite payé la rançon. Donc personne ne l'a critiqué alors, dit-il, mais il est tout aussi vrai que ça n'a pas mis fin au kidnapping d'enfants aux États-Unis. En fait, argumente-t-il, plutôt qu'une rançon, cet argent représentait des paiements ciblés pour semer la division dans les rangs des bandits. Et dans toute cette lettre, il se justifie en rappelant que, même en Amérique, on est obligé parfois de jouer de l'intérêt des gens. Baker admettra d'ailleurs que s'il avait été à sa place, il aurait probablement agi de la même façon. Quoi qu'il en soit, voilà donc l'affaire Eliassen telle qu'on peut la reconstituer dans ses grands traits. C'est en soi une belle histoire et je ne vous ai pas encore livré l'épilogue qui est assez drôle. Je veux parler des aventures de Henry Chuan, le compagnon de captivité d'Eliassen, qui était un ingénieur junior, enfin, il n'est pas un vrai ingénieur, mais enfin, il était, disons, une sorte de chef de travaux, travaillant régulièrement pour la CIFRC et donnant apparemment toute satisfaction, et qui était en outre le neveu d'un des membres du comité exécutif, mais qui s'est révélé à cette occasion à la fois un filou et un personnage un peu désaxé. Mais j'en redirai un mot rapidement la semaine prochaine. Surtout, la semaine prochaine, j'analyserai ce que j'ai appelé les tenants et les aboutissants de toute cette affaire. L'un de ses aspects les plus remarquables, me semble-t-il, c'est l'osmose entre bandits, paysans, soldats et travailleurs du chantier. Tout le monde se connaît, on passe sans difficulté d'une condition à l'autre, et lorsque les récoltes sont mauvaises et que c'est la disette, cette combinaison, à laquelle il faut encore ajouter les groupes de propagande communiste, cette combinaison devient explosive, ou en tout cas incontrôlable. En fait, cette écologie un peu étrange semble surtout caractéristique du secteur où Eliassen et Chuan ont été enlevés et ensuite promenés de grotte en grotte dans les montagnes immédiatement au nord. Ce secteur, c'est ce qu'on appelle le plateau, immédiatement à l'est de la tête du canal. C'est la partie nord du Weibei qui, pour de simples raisons de topographie, et c'est ce que j'expliquerai la semaine prochaine en vous montrant une carte où ça apparaît bien, pour des simples raisons de topographie, ne bénéficie pas de l'irrigation. Alors que ses habitants avaient mis de grands espoirs dans les projets formulés par Li Yijie et par d'autres depuis les années 20. Et nous verrons qu'il y a en fait tout un contexte de frustration autour du canal construit à partir de la fin 1930 et inauguré en grande pompe moins d'un an avant l'enlèvement d'Eliassen. Et non seulement de frustration, mais aussi de spéculation. Et il me faudra donc voir de plus près quel a été l'impact économique de toute cette opération à court et à moyen terme. Et enfin, l'affaire Eliassen, comme un an plus tôt l'affaire Thornval, a mis à rude épreuve la collaboration entre la CIFRC, qui encore une fois était à ce moment le principal pourvoyeur de fonds et de techniciens pour ce genre de travaux en Chine du Nord, de collaboration entre la CIFRC et les autorités du Shanxi, lesquelles étaient confrontées à des difficultés politiques et financières dont les responsables de la CIFRC n'étaient sans doute pas totalement conscients. Todd se plaint bruyamment de ce que le gouvernement du Shanxi est mauvais payeur, qu'il ne tient pas ses engagements, qu'il paye ses propres ingénieurs avec des mois de retard, et plus grave, qu'il n'a pas remboursé les terres expropriées à cause de la construction du canal, du nouveau système d'irrigation. Autant de problèmes donc qu'il me faudra examiner de plus près, car ils expliquent pour une bonne part la lenteur du décollage économique de la région pendant les années 1930, et ce, en dépit des espoirs mis dans l'arrivée des nouvelles autorités nationalistes et des efforts effectivement consentis par elles dans beaucoup de domaines, mais cette fois dans des domaines qui sont en dehors de la sphère de compétences de la CIFRC. Voilà donc de quoi je parlerai la semaine prochaine. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.